Bonjour ou bonsoir. Nous sommes réunis autour de Kapwani Kiwanga, artiste, et de Fabienne Bidot, commissaire de l'exposition « La vérité des apparences » qui se déploie en deux volets. Le premier, intitulé « Histoire de code et de reflets », présenté au Centre d'art La Tuilerie à Clermont-Ferrand. Le deuxième, « Histoire de symboles, de motifs et de langage », s'est tenu à la Galerie de Roussan à Paris.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Fabienne Bidot, donc la commissaire de l'exposition, et je suis ravie de pouvoir parler de ce projet sur la radio web du. Merci à Simon et Lorraine d'avoir accepté de venir, en tout cas nous enregistrer, discuter avec Kapwani sur ces deux projets d'exposition. Et je suis ravie que Kapwani soit là puisque, effectivement, elle fait partie des deux volets. Notamment le deuxième volet parisien qui se tenait à la galerie de Roussan, qui était un prêt d'œuvre, mais surtout le projet à la Tuilerie pour laquelle je l'ai invité à produire une nouvelle pièce qui était aussi le point de départ d'un nouveau projet de recherche. Donc pour moi, c'était aussi une certaine satisfaction de pouvoir travailler avec toi, Kapwani, sur ce projet. Mais avant tout, je vais commencer par vous parler de ce qu'est la vérité des apparences. Ce projet qui a été pensé dans un premier temps pour la Tuilerie, puisque chaque année, il y a un appel à projet qui invite des commissaires à investir l'espace d'exposition, qui est en fait un ancien garage, donc un lieu qui s'est transformé il y a une dizaine d'années. L'aspect industriel reste, mais les contenus évoluent chaque année et pour chaque temps d'expo. Donc au début, le commissariat a été accordé à un commissaire pour une programmation d'une année. Et depuis 3 ans maintenant, ou 4, ils invitent 2 commissaires. Donc on propose un projet et de 2 volets. Et ils choisissent soit 1, soit 2. Et donc cette année, pour 2015-2016, je fais partie, j'ai développé un projet d'un temps. C'est Marie Cantos, l'autre invitée, qui a développé le projet en 2 temps. Et j'ai eu la chance, pour ma part, de pouvoir développer ce projet aussi à Paris. Donc j'ai pu construire et finaliser ce projet en 2 volets entre Clermont-Ferrand et Paris, ce qui était intéressant. C'est deux lieux différents, un lieu industriel et puis le White Cube par excellence avec un éclairage neutre à Paris. Donc deux lieux, 2 formats d'œuvres, 2 identités. Et d'une façon générale, la vérité des apparences est un projet qui s'attarde sur une réflexion sur les images que véhicule la société contemporaine actuellement, surtout occidentale, et qui justement s'étend dans le monde, puisque nous sommes un petit peu le modèle, on va dire, économique, social, presque identitaire, quasi, avec ce flot d'images qui vient nous envahir quotidiennement. Et j'avais envie de questionner les artistes et aussi l'histoire de l'art, par ailleurs, sur justement ces histoires de code, ces images qui nous rassemblent, ces visuels, ces logos, ces étiquettes aussi. La France est un pays d'histoire monarchique et royale, et donc il y avait tous des codes, des étiquettes, les vêtements, la mode aussi est un milieu très 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 codé. Et j'avais envie de poser ces questions aux artistes et aussi à travers mes lectures et des prêts d'œuvres que j'avais envie de faire, justement pour essayer de répondre, ou en tout cas faire une proposition par rapport à ça. Donc c'est pas tant une série d'expos qui tient à un seul fil en fait, mais c'est plusieurs œuvres, plusieurs idées qui sont regroupées. Et notamment à la Tuilerie, il y a des questions sur l'identité, le territoire, la question de la femme, de la peinture aussi, avec des artistes comme Jornam Leder ou Emmanuel van der Mullen. Donc j'avais envie de croiser toutes ces idées pour essayer de presque proposer un essai. Donc voilà, c'était... Il n'y a pas de réponse absolue, il y a juste des assemblages qui me semblaient pour moi intéressants. Et puis à Paris, je me suis plutôt attardée sur la question du décoratif, de l'ornementation et de surface qui sont utilisées par les artistes comme Kapwani sur la question de l'identité. Vachelav aussi sur la transmission des formes esthétiques. Il est né à Leningrad. Je cite son CV parce qu'il le mentionne en fait. Et c'est pas Saint-Pétersbourg, mais en 79. Et donc il a vécu toute cette transformation du régime national-socialiste soviétique à l'avènement du capitalisme. Et l'Europe centrale est actuellement une scène où il se pose toutes ces questions. Quelles sont quand même les bonnes idées qui ont véhiculé sous le régime communiste, que le régime capitaliste n'est pas du tout un modèle économique et en tout cas social qui les satisfait. Donc ils sont vraiment dans ces questions-là et c'est pour ça que j'ai invité Vachelav aussi dans cette exposition. Le point de départ de ce projet est un texte de Al Foster qui s'appelle « Fetishism in Dutch Still Life Painting of the 17th Century ». Donc je voulais faire en français le fétichisme dans les natures mortes hollandaises du XVIIe siècle. Et quand j'ai lu ce texte, j'étais vraiment intéressée par le contexte politique et économique des Pays-Bas au XVIIe siècle, qui connaissait deux mouvements, dont l'un économique exponentiel, avec une abondance, avec les comptoirs qu'ils avaient dans le monde entier pour le commerce, une richesse... voilà, une vie un peu luxuriante comme ça, et puis la réforme, donc avec la montée du protestantisme et l'application de son dogme aux Pays-Bas, qui était très rigide et très présent, et qui refusait toute représentation figurative du désir, de la luxure, de débauche. Et donc la nature morte était le lien, en fait, ou en tout cas le moyen de pouvoir à la fois respecter la non-figuration imposée par le dogme religieux et en même temps exposer toute cette richesse et ces échanges entre l'Europe et l'Asie, en fait, puisque il y avait des nouveaux fruits qui apparaissaient sur le marché, des nouveaux matériaux, enfin voilà, tout ce que peut générer un échange entre différents continents. Et agencé de façon très, très belle, très précise, très léchée. Donc c'était aussi une façon... les natures mortes hollandaises sont très finies, avec un vernis appliqué de façon très précise. Donc c'est des toiles qui sont très belles à regarder, très très composées. Et en même temps, les éléments qui sont utilisés renvoient à des formes de discours sur le désir, sur l'amertume, sur aussi parfois des intentions politiques. Et donc ce discours caché, je trouvais ça hyper intéressant et j'avais envie de l'appliquer aujourd'hui à une certaine forme de production contemporaine et de ce qui existe actuellement sur la scène occidentale et suite aussi à mes résidences et mes rencontres et mes intérêts. La tôlerie, il y a des prêts d'œuvres, notamment faites... au Frac Limousin, donc il y a des fournitures sculptures de Jörn Amleder, des collages de Madeleine Berkemer, qui est une artiste néerlandaise. Aussi, on retourne sur le territoire d'origine des natures mortes du XVIIe siècle, mais elle qui est plutôt engagée dans la question du féminisme et de la performance. Mais pour l'exposition, j'ai plutôt emprunté un travail... on va dire plus subtil et puis moins dans la représentation. En fait, elle a repris des pages de journaux américains qui datent des années 50-60 où la femme est mise en scène dans son quotidien de femme au foyer, en fait. Et sur la figure féminine, elle a mis des photos de ses performances, donc une façon de controverser un petit peu les conventions sociétales qui, je pense, sont toujours actuelles aujourd'hui. Les fournitures sculptures de Jörn Amleder m'ont intéressée dans sa façon qu'il a eue de penser la peinture à travers le mobilier, et notamment de récupérer les objets, de les assembler. Et pour lui, ce qui était important aussi dans les fournitures sculptures, c'est l'idée d'interchangeabilité. Donc finalement, une tête de lit rose peut aussi devenir bleue, même si ça reste très composé, j'aimais bien son action sculpturale à travers le prisme de la peinture. Emmanuel et la dernière pièce empruntée, c'est Robert Filliou, une vidéo qui s'intitule « And so on and so soon » de 77 et qui fait partie de la série des bien fait, pas fait, mal fait. Et on le voit justement en mouvement dans une, en trois. C'est une vidéo qui comprend trois séquences où il se met en action en faisant des gestes rituels absurdes dans la première partie, dans la deuxième qu'il commente de façon assez assez ironique, et dans la troisième il analyse justement le déplacement d'image, le regard et la façon dont on manipule les images aussi. Enfin, pour moi, c'était cet aspect-là qui m'intéressait dans cette vidéo. Bien évidemment, avec cette ces questions sociales de l'art que lui traite sur l'art est accessible à tout le monde et toute production peut être dite art. Voilà pour les prêts à la tôlerie. Emmanuel van der Mullen, Capuani Kiwanga et Vaclav Vagid ont produit chacun une nouvelle pièce. Emmanuel van der Mullen a entamé une série de peintures suspendues depuis sa résidence à la Villa Médicis en 2012. Et ce qui m'intéressait, c'était justement, ce sont des grandes toiles qui sont juste accrochées par un linteau en haut et qui sont suspendues et qui prennent la forme du mur ou de l'espace dans lequel elles tombent, en fait. Et pour lui, il a assimilé ça aussi à des éléments de décor qui étaient utilisés dans le milieu renaissant italien, dans le théâtre. Et en fait, sa toile se roule sur elle-même, et donc elle est transportable, et on sort un petit peu de l'aspect rigide du châssis. Et donc ça devient aussi un espace de projection, et sa peinture en elle-même est abstraite, mais en même temps il utilise des sigles qui pourraient nous renvoyer à des éléments de notre quotidien. Vaclav Vagid a produit une vidéo sur l'idée de concept en philosophie, et en opposant la question du général au particulier, en fait, et il se prend lui-même en tant qu'exemple. Puisqu'il explique, en fait, dans la vidéo, donc il y a tout un collage avec ses références et ses lectures, il explique qu'il est un homme blanc, né en Occident, d'origine juive, russe, mais vivant en République tchèque. Est-ce que ça fait de lui un pro-israélien, un pro-Poutine, un misogyne, enfin un macho dominant le sexe masculin sur la femme, et un colon, puisqu'il est de race blanche, né en Occident. Donc voilà, il met en exergue toutes ces questions-là et toutes ces ambiguïtés que génère parfois la pensée philosophique par rapport à des cas particuliers. Voilà, je crois qu'on est au cœur de l'actualité avec ces questions-là. Et puis Capuani, peut-être que, vu que tu es présente ici, tu peux nous parler de ce projet que tu as pu développer à la tôlerie, qui est un nouveau travail de recherche.
Merci. C'est vrai que le projet que j'avais fait avec toi à la tôlerie, c'est un prologue de plusieurs chapitres d'un projet de recherche. Donc le titre de l'installation s'appelle « Neck barré, plus ultra ». Et je mentionne ça parce que c'est assez important pour comprendre un peu ces questions de code et comment les codes aussi ils changent dans le temps. Parce que dans mon travail, de manière générale, j'essaie de m'intéresser à ce qui peut être « the big history », on dit en anglais, donc un regard sur l'histoire, notre présent, le futur, qui est très large, même quelque chose qui peut être avant nous, les êtres humains, donc préhistorique. Donc pour ce projet, qui est une installation assez simple à vue, c'est des colonnes en polystyrène, des colonnes doriques, donc qui rappellent bien sûr l'Antiquité grecque et tous les fondements de, on peut parler de le culture occidentale, qui, entre guillemets bien sûr, parce que c'est beaucoup complexe comme ça. Mais ce qui m'intéressait avec ce projet en particulier, c'était une image qui était véhiculée dans l'Antiquité grecque, de les colonnes de Hercule, qui représente deux formations géologiques. D'un côté, de l'étroit de Gibraltar, on a Gibraltar même, et on a une autre colline qui apparaît sur le côté marocain. Donc ces deux formes géologiques étaient après... elle a pris le symbole des colonnes, qui portaient un peu pas forcément le ciel, mais qui étaient un marqueur de la fin du monde connu. Donc à ce moment-là, des navigateurs, des gens qui prenaient la mer, voyait ces deux repères comme le fin de ce qu'il connaissait. Après, plus loin, il ne savait pas. Et du coup, ces mêmes symboles de colonnes, plus tard, dans le 16e, si je ne me trompe pas, mais c'est Charles V de l'Espagne, dans tous les cas, qui a repris cette symbole des deux colonnes côte à côte, avec entre les deux une petite banderole ou un drapeau marqué plus ultra. Donc, alors le nec de l'antiquité grecque est disparu, et maintenant on va aller plus loin. Donc, au-delà de l'inconnu. Donc là, on embarque dans une période de empire, de découverte, encore entre guillemets, de les Amériques, etc., l'expansion ibérique. Donc je trouvais ça assez intéressant que ces colonnes, symboliquement, dans deux cultures, avec une expanse de temps assez large, sont complètement retournées, cette idée de la fin, comme une barrière, comme quelque chose qu'on ne dépasse pas, à quelque chose qu'on doit y dépasser pour, après, que notre monde aussi devienne plus large. Des conséquences, on n'en parlera pas forcément maintenant de tout ça, mais je trouvais ça assez intéressant, cette symbolique qui mute aussi. Parce que cette question de mutation dans la culture, dans le monde, ça m'intéresse aussi, parce que bien sûr, on n'est pas dans des choses fixes, et je pense qu'on voit ça aussi dans des œuvres aussi à la Tuilerie, par exemple, quand un artiste peut prendre un symbole, il va retravailler pour que ça donne un autre, pas forcément qu'une critique, mais une autre vie à ces mêmes symboles. Donc c'était ce projet-là, on voit des colonnes, en fait des morceaux de colonnes de colonnes doriques en polystyrène qui sont disposées dans l'espace, couchées. Et entre ces morceaux, il y a un écran avec une vidéo que j'ai pu tourner quand j'ai parti à Gibraltar pour faire un peu des recherches. Et du coup, j'ai tombé sur une grotte touristique, qui s'appelle la grotte de Saint-Michel, où il y a un effet de son et lumière, où des touristes viennent, ils passent le temps, ils écoutent la musique de Eurotechno à la musique classique, toutes les gammes de musique sont représentées. Donc une expérience très populaire, très séduisante, parce qu'on est dans une grotte assez profonde, très grande, avec les formes en soi juste très impressionnantes, mais en plus on ajoute des lumières qui flashent, on est un peu dans une discothèque, mais très composée, qui va très étudié. Mais du coup, j'ai tout simplement filmé ça. Et ce qui m'intéressait avec cette grotte, c'était pas que ça soit une expérience populaire et touristique, parce que c'est une chose qui m'intéresse dans mon travail de manière générale aussi, c'est un peu les connaissances ou même les expériences populaires et comme ça peut cohabiter avec les choses plutôt scientifiques dites élites et comment ces deux types de connaissances prendre des formes différentes, mais souvent par des mêmes choses. Mais ça à part, ce qui m'intéressait dans cette grotte de Saint-Michel, c'était un type de folklore local qui disait que cette grotte était l'entrée d'un tunnel naturel que dans le temps reliait le continent africain et européen. Et donc du coup, on vient à un peu le sujet de départ de mon projet de recherche, qui est le projet de Afro-Tunnel. L'Afro-Tunnel, qui est un projet hypothétique d'ingénierie qui veut relier l'Afrique et l'Europe comme le Eurotunnel qui passe en dessous de Manche. Donc, du coup, c'était vraiment cette question de... Ben déjà, la Méditerranée, c'est très chargé, on a beaucoup de projections, beaucoup d'histoires et beaucoup d'échanges culturels, bien sûr. Mais je me dis... Ben, qu'est-ce qui était fait comme projet ou envisionné comme projet pour soit barrer le rapprochement des deux ou de créer un lien. Donc c'était vraiment le point de départ de cette recherche que je continue, que j'ai pu faire un autre volet. Pour moi, c'est le premier chapitre que je montre en ce moment à la Galerie Jean Poggi, mais le prélogue, le prélude, c'était vraiment avec toi, à Clément Ferrand. Et ça m'a donné vraiment le temps de commencer à vraiment mettre mes dents dedans. Et ces idées de ces deux piliers me semblaient assez intéressantes comme point de départ. Donc dans la vidéo que j'ai tourné dans la grotte de Gibraltar, j'avais mis au-dessus une interprétation by Jesse Norman, qui est une chanteuse d'opéra afro-américaine, qui interprète Laid into Earth, mais qui est une chanson qui vient de l'opéra baroque de Henry Purcell.
et qu'elle parle, elle prend le, c'est en fait l'histoire de, entre Dido et Aenys, et cette question encore entre l'Afrique et l'Europe, mais vue de la production culturelle de notre moment, m'intéresse pour les futurs chapitres aussi de ce projet. Aussi le fait qu'il y a cette figure de Dido, le reine de Carthage, qui, si on regarde en littérature très ancienne, elle n'a pas la même figure tragique qu'on voit dans ces opéras baroques, où c'est une femme qui est consommée par l'amour et qui après, ben, c'est une tragédie à la fin, mais c'était plutôt une regent ou une dirigeante très compétente qui a construit sa propre ville monarchique après une fuite de son propre territoire. Donc c'est intéressant aussi comme la figure de femme en pouvoir change dans le temps, dans la construction culturelle de plusieurs personnes et que ça continue. Et après, comment cet rapport, peut-être des fois stéréotypé, entre un ailleurs ou un autre qui est très passionné, qui n'est pas rationnel ou moins rationnel, et tout entassé dans une figure de quelqu'un comme Dido. Donc ça, c'est un point d'intérêt qu'on n'a pas vraiment développé en détail ensemble dans la première expo, mais c'est une question qui me pose. Je me demande comment les différentes figures de Dido aussi a pu évoluer dans le temps. Et donc, ça s'explique un peu le son qui est dans la vidéo de la grotte de Saint-Michel, et le titre c'est Strata en fait. Et en plus de ça, il y avait un petit texte un peu comme un scénario de film ou de pièce de théâtre que j'avais écrit qui mettait en dialogue différents personnages, des personnages de feuilles préhistoriques, de mouvements de plaques tectoniques et de géologues. Donc c'est très fragmenté comme petit texte, mais qui donne un peu d'ouverture vers peut-être les territoires différents qui m'intéressent dans ce projet d'Afrotunnel, qui n'est pas uniquement cette idée d'ingénierie, c'est vraiment le point de départ, mais qui, comme j'ai dit, va dans le temps, beaucoup dans le passé, et on peut aussi imaginer des spéculations, même antérieures, de projets d'ingénierie des années 30, où ils ont proposé des projets pour relier les deux continents, mais qui n'ont jamais eu lieu. Ce qu'on a présentement avec les négociations entre l'Espagne et le Maroc pour éventuellement créer un tunnel, et d'autres qui viendra peut-être par moi ou par d'autres personnes qui sont plus compétentes dans tout ce qui est ingénierie. Donc ça, c'était le projet à Clermont-Ferrand qu'on a commencé ensemble. J'étais bien contente d'embarquer dans ce projet qui, je pense, va être assez long, et je prendrai le temps de développer les chapitres dans le temps voulu. Mais notre voyage en Maroc est nécessaire pour aller plus loin. Et bon, et plein d'autres lectures, etc.
Donc on pourrait peut-être écouter justement un extrait de cette musique. Fabienne, peut-être qu'on peut revenir, juste pour clôturer sur ce premier volet, sur les artistes qu'on n'a pas mentionnés.
Oui, tout à fait. Effectivement, il y a une pièce importante, enfin, toute importante, mais il y a un prêt que j'ai voulu absolument pour l'exposition. C'était, dans mon idéal, c'était d'emprunter une nature morte du XVIIe siècle hollandaise, mais... au vu du lieu qu'est la tôlerie, des conditions de conservation et des assurances, c'était pas possible pour moi de sortir une toile maîtresse de cette époque, de cette période. Donc j'ai décidé de travailler sur la question locale, justement, et d'emprunter une nature morte qui date du XIXe siècle au musée d'art Roger Quillot à Clermont-Ferrand. Donc qui ont une collection très éclectique, en sens général du terme, et avec des œuvres de peintres auvergnats locaux. Et donc, cette nature morte a été peinte par Ernest Versepuis, qui a eu aussi, lui, une vie très étrange. Il a eu deux vies. Il a eu une vie sous le nom de Joseph Versepuis, où il était boucher. Puis, deuxième partie de sa vie, on ne sait pas trop comment ça a muté, en tout cas. Les occasions lui ont permis de devenir artiste. Et il est devenu peintre. Il a peint des scènes d'intérieur auvergnates, des natures mortes, et il est devenu aussi directeur de musée et prof à l'École des Beaux-Arts. Donc, sous un autre nom, Ernest Versepuis, sous le nom qu'on connaît, en fait. Et les petites recherches que j'ai pu faire et les maigres informations qu'on a pu me donner sur cet artiste ont montré que lui aussi avait eu une vie cachée avant sa vie... Et donc cette nature morte, elle se situe à l'entrée de l'expo, un petit peu comme une forme d'analogie, en fait. C'est pas tant pour la qualité de la peinture que pour toutes les idées que ça véhicule par rapport à mon projet, que j'ai voulu emprunter cette nature morte et qui, je trouve intéressant de mettre en regard avec aussi une production contemporaine et de faire des liens comme ça entre l'histoire de l'art et l'actualité artistique. Et il y a encore deux autres artistes que j'aimerais mentionner et avec lesquels j'avais depuis longtemps voulu travailler. C'est notamment le duo Pauline Boudry et Renate Lorenz, artistes allemandes et artistes suisses qui collaborent maintenant ensemble depuis une quinzaine d'années et qui travaillent sur la question de la notion du queer. Et qu'est-ce que ça veut dire le queer aujourd'hui? Renate Lorenz a écrit une thèse sur ce sujet-là. Et elles essayent justement de dépasser un petit peu ces codes, entre guillemets, folkloriques ou habituels de travestissement pour en essayer de comprendre les fondements, en fait, de ce n'est pas qu'un mouvement, mais c'est aussi une façon de vivre et un état d'esprit. Et c'est pas simplement du déguisement, mais c'est une vraie façon d'être. Et donc, elles font beaucoup de films autour de ces questions et travaillent notamment avec un performeur ou une performeuse. Enfin, on ne sait pas trop quand on regarde les films. Et c'est une actrice qui performe un homme, généralement, dans les films. Et là, le film que j'ai sélectionné pour l'expo s'intitule Charming for the Revolution et qui regroupe des idées sur la femme au foyer, d'après le mouvement italien Housewife and Wages, mené par Selma James, pour qui revendiquait justement le statut de femme au foyer comme étant un emploi en tant que tel, avec des revendications sociales, un salaire et tout ça, qu'elle mêle aussi avec le devenir animal de Félix Guattari et Gilles Deleuze, et aussi avec le cinéaste Pasolini, Petit oiseau, grand oiseau, un film très cynique autour justement de cette animosité qu'inspire et l'individualisme insuffle le capitalisme. Donc voilà, c'était un film pour moi, et en même temps quand on regarde le film il est très drôle, puisque il y a cette performeuse qui est déguisée en oiseau et on la voit évoluer justement sur la question du devenir animal dans un zoo. Elle joue de la guitare, donc c'est très c'est un regard très à la fois critique et amusé sur la situation et les questions qu'elle souhaite défendre. Et puis une vidéo d'Yvan Argote, qui est un jeune artiste d'origine colombienne et qui est maintenant à Paris depuis une dizaine d'années. Enfin, basé à Paris, parce qu'il voyage beaucoup. Et c'est une petite vidéo un peu performative que j'ai sélectionnée pour le projet, durant un séjour à Barcelone, il s'attaque un petit peu au symbole du colonisateur concrètement, puisqu'il met le feu à une statue en déversant de l'alcool sur un prêtre qui indiquerait le droit chemin à un indigène. Donc j'aime bien cette idée de spontané aussi, et le fait qu'il ait fait une forme de rituel, comme il explique lui-même, par rapport à son histoire, l'histoire de son pays, les rapports entre l'Occident et l'Amérique latine, encore une fois. Et la vidéo en elle-même n'est pas très belle à regarder puisqu'elle a été filmée avec son iPhone. Mais c'est plutôt le geste qui m'intéressait. L'action dure 4 minutes. Et voilà pour les œuvres qui sont présentes dans la tôlerie. Donc on va parler maintenant du deuxième volet qui s'est déroulé à la galerie de Roussan en quelques mots. Avec une exposition qui a principalement été conçue d'après des œuvres d'artistes que je suis depuis maintenant un petit moment, et une production in situ de François Mazadro. Ça me tient à cœur toujours de au moins produire une pièce pour chaque exposition et qu'un artiste puisse se projeter dans l'idée du projet. Cette exposition proposait des photographies de Donatella Bernardi et Lucas Hoffman, un triptyque photographie papier peint de Yagna Turta, une installation sculpture de Kapwani Kiwanga, une vidéo de Vaclav Magid et une production in situ de François Mazabro. Et peut-être que Kapwani, tu peux nous parler justement de la pièce que j'ai empruntée pour l'exposition à Paris.
Ce que je vais vous montrer dans cette expo-là, c'est une pièce qui fait partie d'une série qui s'appelle Turns of Phrase. J'ai commencé ce projet en 2011-2012. Et c'est quelque chose d'assez simple, c'est comme des bâtons assemblés ensemble qui a des écritures, des textes dessus, écrits en langue swahili, qui est une langue qui est parlée dans l'est de l'Afrique, mais qui est une langue assez importante en Afrique de manière générale. Et ces textes, en fait c'est des petites phrases, des proverbes, viennent d'un tissu qui s'appelle la kanga, et c'est un tissu qui est porté dans le quotidien par les femmes, mais aussi des hommes. Mais c'est vraiment un tissu qui est utilisé pour plein de choses. Ça peut être faire une nappe pour la table, pour faire un petit pareo, de porter le bébé dedans. Et c'est vraiment un tissu qu'on peut utiliser pour les besoins qui se présentent. Et c'est surtout utilisé beaucoup dans les zones rurales aussi par les femmes qui vont travailler dans les champs et qui l'utilisent un peu comme pour le protéger contre la poussière et la saleté, etc. Mais ce qui est assez intéressant, il y a une longue histoire de ce tissu qui vient des échanges culturels entre l'Inde, l'océan Indien et l'ancien sultanat de Oman. Donc il y a vraiment un mélange culturel qui est dans ces tissus. Où il y a des motifs, on parlait tout à l'heure, Fabien, de décoratives et tout le reste qui était un peu présent dans cette expo. Donc effectivement, il y a le décoratif qui est présent dans ces tissus, les kangas, mais j'ai fait le parti pris d'un peu extraire la seule chose qui était moins décoratif et plus un véhicule de parole ou de savoir, qui étaient les textes qui sont présents toujours dans les kangas. Donc ça peut être un proverbe ou... même des paroles presque d'une chanson populaire pour montrer un peu les préoccupations des gens du moment. Donc c'est souvent des choses autour de l'amour, sur la réussite, sur la famille, sur les morales, l'éthique, etc. Donc ce que je fais avec ce projet, c'est que je regroupe ensemble par thématique. Et pour Galerie de Roussan, je pense que c'est sur la thématique de l'envie ou la jalousie. Donc il y a aussi ces choses qui se véhiculent parce que les kangas, en plus d'être quelque chose de très pratique porté dans le quotidien, c'est aussi quelque chose qu'on peut donner aux gens comme cadeau, ou on porte par exemple quand on passe à côté de quelqu'un, et c'est une façon indirecte de dire ce qu'on pense de quelqu'un ou d'une situation. Donc si on est en train de discuter avec un voisin, une voisine, je peux porter un kanga qui va dire, par exemple, occupez-vous de vos affaires. C'est une façon indirecte, comme beaucoup dans la culture swahili, qui est moins directe que d'autres cultures, de dire ce qu'on pense sans offenser trop. Donc ce que j'avais fait dans toute cette série, c'est que je regroupe par thématique, mais aussi par... tonalités, des couleurs, des choses qui fonctionnent plutôt ensemble. Ils sont assemblés dans un truc un peu comme une sculpture subtractive, finalement, qui... Voilà.
Ouais, mais qui a quand même en elle-même une certaine dynamique.
Oui.
Parce que nous, quand on l'a monté dans la galerie, on avait inversé deux phrases et ça marchait pas du tout par rapport à l'énergie que ça pouvait dégager. Donc c'était intéressant aussi de voir que l'ordre que tu sélectionnes et aussi les motifs insufflent une certaine énergie à ta pièce. Oui. Et moi, j'avais justement une question parce que cette pièce. Quand on l'a exposé, j'avais oublié de te demander tous les détails et les gens ont posé des tonnes de questions sur ce que voulait dire le texte, la langue. Et pour moi, j'étais dans mon projet, c'était une surface d'expression en même temps que du tissu usuel quotidien. Et le texte, qui est-ce qui décide le texte qui est imprimé sur les tissus en fait ? Ça, c'est des questions qu'on m'a posées et que...
Moi, ce que je comprends... Mais là, je ne peux pas dire à 100% de vérité. Ce que je comprends, c'est vraiment des maisons d'impression qui choisissent. Il y a une équipe qui va soit avoir à l'écoute dans la rue des usages quotidiens, un peu des phrases qui sont utilisées. Après, il y a certaines qui reviennent à chaque fois, des phrases qui sont vraiment l'ordre de la connaissance populaire ou que tout le monde, même en France, j'imagine, il doit avoir des phrases... des expressions que les gens utilisent. Et après, d'autres qui sont un peu plus poétiques, des jeux sur les mots. Et puis les gens sélectionnent vraiment, pas que le motif, mais aussi la phrase qui est écrite. Ben, dire « Ah là, cette phrase-là, j'aime pas, c'est trop dur » ou « Ça, c'est pas assez poétique » parce que c'est assez difficile, quand je traduis aussi, de le soigner vers... soit le français et l'anglais. C'est souvent mes frères ou sœurs qui vraiment parlent swahili. Moi, je comprends un petit peu, mais vraiment très peu. Et je demande à toi, frère ou sœur, et j'ai des traductions assez différentes chaque fois, parce que c'est vraiment une langue qui... et la façon que ces phrases sont écrites peuvent être assez fluides dans leur traduction. Mais la thématique est toujours très, très claire. Et du coup, ouais, ce que je comprends, c'est vraiment les personnes qui travaillent dans ces... les personnes qui travaillent dans ces maisons d'impression, qui fabriquent le...
Le tissu.
Ouais, les sérigraphies.
L'impression.
Ouais, en fait, ils tissent aussi, donc... ces usines qui font ce travail-là.
Et est-ce que tu peux, quand tu te balades dans les rues, quand tu vas en Afrique de l'Est, comprendre un état d'humeur général par rapport au tissu ou pas du tout ?
Mais je pense qu'il y a certaines thématiques qui reviennent souvent. Et comme je l'ai dit, c'est soit... en même temps, c'est vrai qu'il peut y avoir, pendant des passages politiques aussi, par exemple, quand Barack Obama était élu comme président des États-Unis, il y avait son visage qui était souvent sur les kangas et d'autres tissus, qui n'est pas que l'Afrique de l'Est, mais je pense que partout en Afrique, il y avait souvent ça. Mais comme le Kenya est d'origine de son père, est très très proche de la Tanzanie, et au Kenya, on trouve aussi les kangas. Il y avait bien sûr des kangas. Pour les élections, souvent des hommes ou femmes politiques produisent des kangas qui ont des slogans dessous. Donc ça peut aussi avoir un parti politique aussi, parce que c'est vraiment quelque chose qui imperme la société.
Mm-hmm. Donc, et c'est assez unique en Afrique, en fait.
Ce que je comprends, c'est vraiment l'Afrique de l'Est.
L'Afrique de l'Est,
on a les Comores un peu, parce qu'ils sont vraiment en face, l'Ouganda, Kenya, Tanzanie. Et quand j'étais en Afrique du Sud récemment, je pensais d'avoir vu quelque chose qui ressemblait dans les motifs et la façon de laquelle ils déploient un type de grille très spécifique, parce qu'on a une bordure, une deuxième bordure et un motif central et après un texte. Mais en Afrique du Sud, je n'ai pas vu le texte. Donc pour moi, ce que j'ai compris, les kangas, c'est le seul où on a un texte écrit en lettres latines. Donc du coup, puisse déchiffrer. Ça doit exister aussi en arabe aussi, mais j'ai pas encore vu des kangas écrites en arabe, mais ça doit exister.
Merci Kapwani pour ces explications. C'est une œuvre bien mystérieuse quand on n'en a pas toutes les clés pour la lire. Hein.
Oui, c'est clair.
Déjà, rien que la langue.
Oui, mais c'est ça aussi. Je ne voulais jamais avoir des traductions juste à côté, parce que je pense que c'est assez intéressant d'être devant quelque chose qu'on doit déchiffrer. On peut apprécier Ouais, parce que c'est assez phonétique aussi la langue swahili, donc on peut s'amuser à le lire dans nos têtes et avoir une sonorité qui vient pas sûre de soi, mais au moins il y a un petit exercice de. Et je pense qu'on n'est pas obligé de décoder tout de suite aussi. Hein.
Non, non.
Ça fait partie de le mystère.
Oh ouais, j'ai mis du temps à décoller en entier. Tu viens de répondre à ma dernière question. Et j'ai oublié de mentionner une dernière artiste dans l'expo de la galerie de Roussan quand même, Anna Adal, qui a fait une petite vidéo d'archive sur la Foire internationale de New York en 39-40. Et je tenais à dire quelques mots sur cette vidéo installation qui est quand même assez surprenante, où on voit des femmes évoluer dans la partie du zoo humain, section zone amusement, qui représente la colonie du Sun Worshipper en bikini et cheveux décolorés blonds. Donc on est en 39-40, on est vraiment au début de la pin-up hollywoodienne. C'était assez surprenant de voir... Enfin, surprenant. Non, que la femme soit comme objet de promotion de la question anthropologique sur l'utilisation, justement, du genre pour promouvoir... ou en tout cas attirer le visiteur, le spectateur, et je pense encore aujourd'hui d'actualité. Voilà pour quelques mots pour l'expo à la Galerie du Roussan. Je voulais terminer peut-être, et surtout par le titre de l'exposition, qui est un titre que j'ai simplement ou alors volé un ouvrage sur le Feng Shui, qui s'intitule aussi « La vérité des apparences » que j'ai lu... Donc j'ai lu l'intro, hein, mais c'est une vraie somme sur le feng shui, son histoire et la façon de vivre en harmonie avec son environnement, et notamment comment réfléchir sur les ouvertures dans sa future maison, sur les éléments, le feu, le bois, l'eau et la terre. Oui, merci Simon. Et donc, j'ai trouvé ça assez drôle. En même temps, je l'ai mentionné dans le texte général de l'exposition. Et peut-être qu'un jour pourrait faire l'objet d'une mise en espace de projet, en tout cas refaire les trous ou les ouvertures dans un espace déjà existant, ça pourrait être très assez drôle. Enfin voilà, c'était pour terminer sur le petit clin d'œil par rapport au titre du projet que je n'ai pas inventé mais que j'ai juste emprunté, on va dire. Merci en tout cas Capoigny.
Merci.
Merci Lorraine, merci Simon.
Et peut-être qu'Apoigny, tu peux nous parler de tes projets en cours et à venir.
Mmh. Mais pour rester sur la thématique de ce qu'on a commencé avec Fabienne à travailler ensemble sur ces projets d'Afotunnel, en début de mars de 2016 déjà, je vais présenter une solo expo à Le Granit, qui est la scène nationale de Belfort, où ça va être le deuxième chapitre de ce projet. Donc je vais montrer un peu des choses que j'ai pu produire avec Fabienne et Clément Ferrand, mais aussi des nouveaux articulations de ces questions. Après, il y a d'autres choses qui viennent. Au mois de mai, je ferai une expo à la ferme de Buisson. Donc ça, c'est pas tout de suite. Et au mois de mars aussi, j'étais invitée d'être artiste invité pour le Armory Show. Je vais faire un projet spécial au mois de mars aussi. Ça, c'est un peu plus loin, c'est à New York, mais Belfort, c'est pas si loin. Donc, venez si vous pouvez. Et puis, la ferme de Buisson, c'est encore plus proche. Pour vous qui écoutez à Paris, bien sûr que des gens écoutent de n'importe où. Donc, si vous êtes à New York, venez voir l'Armory aussi.
Et il y a donc en ce moment une exposition personnelle à la galerie Jérôme Poggi.
Oui. Et vraiment de maintenant qui va fermer, ouais. Qui va clôture cette semaine. Donc venez si vous n'avez pas eu la chance de venir avant.
Et à Clermont surtout, puisque c'est aussi la continuité du projet
jusqu'à décembre.
Ouais.
Ouais, bien, merci.
Merci beaucoup.
Merci.